Jeff Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Le lundi soir, de 18h30, c'est des Kiwis et des Nerds, l'émission de ceux qui n'ont pas de REER, mais qui font assurer leur compte. Au menu, pas de parlour royal, mais une saine dose de comic book, science et techno, cinéma et jeux vidéo. Pour tous ceux qui pensent qu'on court plus vite avec un couteau dans les mains, ça se passe le lundi 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle des Terres du Milieu.
Le mois multi, ça le dit, c'est un mois d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 24 jours de festivités regroupant 50 artistes de 7 pays. C'est 18 spectacles et performances hors du commun, 11 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. Prépare-toi à Québec, le mois multi est 20 essences, du 24 janvier au 3 mars. Tous les détails au moismulti.org.
Votre émission de questions de savoir de cette semaine. Louis-Philippe Tremblay qui est à la barre de l'émission encore cette semaine. Qu'est-ce que c'est, question de savoir? Ben, c'est l'émission de l'Allier, qui est l'association des étudiants de deuxième et troisième cycle à l'Université Laval. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de magnifiques autres personnes avec moi. Je commence avec Yasmine Mohamed, qui est secrétaire générale de l'Allier.
Bonjour!
Ibrahima Kone, qui est vice-président aux affaires étudiantes et à la recherche. Hein? C'est oui, ça, aux ça. Études à la recherche.
Oui, c'est ça, vice-président aux études à la recherche.
Voilà.
Ibrahim Massagny-Nicodé.
Voilà. Oui, Ibrahim, je ne sais jamais comment dire ton nom. Jérôme Lisotte, c'est plus facile comme nom. Un nouveau dans l'émission, nouveau à l'Allier aussi quand même. Hein? Ça fait pas très longtemps que tu es là.
Oui, je suis en poste à l'attaché exécutif depuis la mi-décembre, donc j'espère que l'intégration va bien se passer. Je suis full stressé.
En fait, ton test ultime, c'est en ce moment. Après ça, on va voir parfait. Si tu l'as passé.
J'aurais peut-être pas de job cet après-midi.
Ouais, d'ailleurs, notre président, là, Kevin Villeneuve-Tremblay, est à l'écoute. Il nous a dit qu'il écoutait chacune de nos paroles. Donc, j'espère que vous êtes tous bien stressés. Aujourd'hui, une émission qui va aller dans tous les sens. On a plein de petits sujets à vous parler. On va faire un petit retour sur notre édito, d'ailleurs, qui a été publié il y a quelques semaines dans votre nouvel Impact Campus. J'espère d'ailleurs que vous l'avez consulter. On s'en reparle un petit peu plus tard et on parlera aussi d'autres choses qui s'en viennent à l'Allier, puis aussi de quelques enjeux dont on a envie de vous parler. Mais cette semaine aussi, c'est la semaine de l'emploi au cycle supérieur. Donc vraiment un événement qui rejoint nos membres, évidemment, qui sont des étudiants au cycle supérieur et qui vont peut-être se chercher un emploi éventuellement quand ils vont nous quitter, évidemment. Puis cette semaine-là, dans le fond, c'est organisé par le SPLA, le service de placement là, de l'Université Laval, avec plusieurs partenaires, mais principalement, et il y a vraiment plein d'activités. Puis, ce que je voulais faire avec vous, mes chers invités aujourd'hui, c'est de faire un petit tour de la programmation, de ce qui s'en vient. Bien, en fait, c'est déjà commencé, évidemment, ça a commencé hier. Il y a quelques activités qui ont lieu hier et aujourd'hui. Les inscriptions sont terminées. Ce sont toutes des activités gratuites où vous pouvez aller vous inscrire sur le site du SPLA pour vous assurer d'avoir une place, évidemment. Et voilà, ben on peut commencer peut-être avec une première conférence qui s'appelle « Étudiants, chercheurs, professionnels, quelles compétences développer et à quel moment? » une question quand même qui est assez importante, là, les compétences qui seraient finalement la monnaie mondiale des prochaines économies du 21e siècle. Puis on en parle de plus en plus dans notre système d'éducation aussi, on fonctionne de plus en plus par compétences. Donc, peut-être un moment de démystifier tout ça. Je ne sais pas si vous... je m'adresse un petit peu plus à Ibrahim puis à Yasmine, peut-être, là, dans le cadre de vos études, est-ce que vous avez spoté, en bon français, ou en tout cas identifié là, les compétences, justement? Est-ce que vous trouvez ça difficile d'identifier les compétences puis comment les mettre dans votre CV, peut-être, là?
Ben, je pourrais m'avancer parce que là, j'étudie en communication.
En plus.
Et puis, c'est ça donc, qui fait que chez nous, on a beaucoup de cours assez pratiques, des cours qui mettent en évidence des compétences. On a des cours sur le plan des com, sur les communiqués de presse, etc. Mm-hmm. Fait que tout ça sont des cours qui mettent en évidence des compétences. Et en tant que chercheur, effectivement, on développe certaines compétences. La rédaction, l'analyse, les synthèses, tout ça. Et tout ça sont des compétences, effectivement, qui prises dans le milieu professionnel.
Oui, parce qu'on a besoin de connaissances, mais mettre de l'avant ces connaissances en milieu d'emploi, mm-hmm. parfois, c'est un peu difficile.
Oh oui, ben, c'est un peu difficile parce qu'il faut faire un travail d'identification en fonction du programme, en fonction des cours qu'on a suivis, en fonction des cours dans lesquels on a excellé, mm-hmm. en fonction du savoir-faire qu'on a pu retirer de ces cours. Et à partir de là, une fois qu'on est liste, on sait, OK, d'accord, j'ai telle compétence, je suis bon pour tel métier. Et ça se fait pas mal bien, je pense, en communication, disons.
Oui, justement, en fait, comme il a dit Brahim, à partir de ce qu'on fait dans les recherches, dans les cours, on peut identifier nos compétences. Par exemple, moi, en relations industrielles, en fait, spécialité économie de travail, mais ça n'empêche que j'ai d'autres compétences que j'ai développées pendant mmh. mes études, en fait, relations d'emploi, les méthodes Cali, en fait. J'étais pas bonne là-dessus, mais avec le temps, avec les séminaires doctoraux qu'on a eus, j'ai pu, en fait, développer certaines compétences en la matière. Puis nous, au doctorat, ce qu'on fait toujours, c'est plus théorique. On ne fait pas, en fait, la pratique, mais avec ce qu'on fait comme des auxiliaires de recherche, d'enseignement, en fait, ça aide énormément à développer, à améliorer nos connaissances, d'être plus à l'aise avec les recherches. En fait, il faut traiter ça cas par cas parce que pas tous les étudiants qui ont cette possibilité, on a d'autres étudiants dans d'autres domaines qui ne mmh. peuvent pas identifier en fait leurs compétences est difficile. On est où exactement? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Et c'était vraiment difficile pour moi au début parce que je viens pas de relations industrielles. Mais quand j'ai commencé, en fait, j'ai trouvé 4 volets: gestion de ressources humaines, santé, sécurité au travail, puis mm-hmm. Ergonomie et économie de travail. Ben, je me suis dit, c'est quoi ma spécialité?
C'est quoi les compétences que tu avais déjà aussi?
Je suis économiste d'office, j'ai fait économie financière et mm-hmm. économie industrielle. Et puis là, en relations industrielles, qu'est-ce que je vais faire?
Et voilà, c'était vraiment en analysant finalement tes compétences.
Ouais. Qu'est-ce que je vais faire exactement? Mm-hmm. Qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup? Par exemple, maintenant, s'ils me proposent des contrats d'auxiliaire d'enseignement, de recherche, j'accepte pas les contrats en santé, sécurité au travail,
franchement. Oui, c'est ça.
Ou les contrats en ergonomie. C'est ça, parce que c'est pas ma spécialité, je sais pas quoi faire.
Il faut connaître ses compétences, mais aussi ses limites.
Oui, c'est ça, exactement.
En tout, j'ai 4 volets, je m'excuse, je maîtrise 2 volets.
Voilà.
Plus économie de travail, je peux faire gestion de ressources humaines, parce que quand même en économie, on a eu des cours en ressources humaines, en gestion de ressources humaines. Mais quand tu me parles de la santé, sécurité au travail ou ergonomie, je m'excuse, ça ne rentre pas dans mes compétences.
C'est ça, il faut aussi savoir les compétences qu'on n'a pas, finalement. Donc, cette conférence-là sur justement les compétences, puis il y en a deux, en fait, qui suivent, qui parlent un peu de la... Ben, pas de la même chose, mais qui vont regarder deux aspects, là. La conférence qui va suivre, là... Les deux sont à la salle Hydro-Québec. Ça commence à 9h demain matin. Puis la suivante, c'est les clés de l'intégration d'emploi au cycle supérieur. On dit aussi que, justement, là, avoir des connaissances, c'est une chose, mais il faut être en mesure de démontrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vraiment, les deux conférences de demain matin, ce sera vraiment axé sur les compétences. Vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui. L'autre que je trouve assez intéressante aussi, vous avez sûrement, en tout cas, moi, je l'ai déjà fait, là, participé à une activité carrière, une activité où, bon... par exemple, il y a une journée à l'université, il y en a quand même beaucoup. Bon, la fonction publique, par exemple, québécoise est là, où il y a plein d'entreprises, tout ça. Et là, cette formation-là, qui est de 11h à midi, toujours à la salle Hydro-Québec, demain, c'est vraiment pour vous aider à vous préparer à une activité carrière. Bien, c'est intéressant parce que moi, quand on arrive là-dedans, il y a des kiosques, on est toujours un peu gêné, on ne sait jamais où se pitcher. qui on va voir, qu'est-ce qu'on fait, on pose des questions. Bon, je pense que c'est une bonne idée de prendre le temps, un petit 50 minutes justement pour cette conférence-là, pour aller ben c'est ça, savoir un peu là, qu'est-ce qu'on fait dans ces activités carrières-là, tu sais. La prochaine activité, c'est le midi branché SPLA Allier. Donc, évidemment, une activité dans laquelle nous sommes partenaires avec le SPLA. Donc, c'est une activité qu'on fait depuis quelques années déjà avec le SPLA lors de la semaine de l'emploi au cycle supérieur. Puis, dans le fond, il y aura une courte conférence sur les outils en ligne qui sont vraiment incontournables là, pour vraiment faire sa recherche d'emploi comme LinkedIn, mais aussi on va faire le tour de d'autres. Là. C'est vraiment le SPLA. Les conseillers du SPLA là, qui vont être là lors du midi branché. Et ils vont être aussi sur place pour discuter avec vous. Donc oui, c'est une petite conférence, mais ensuite, nous, on vous offre le dîner, vous allez venir manger avec nous, puis vous allez pouvoir vraiment profiter des conseillers du SPLA qui vont être là pour jaser de vous de comment faire sa recherche d'emploi et utiliser ces outils-là comme LinkedIn. Et également, il y aura des employeurs sur place, la fonction publique québécoise et le Fonds de recherche société et culture que vous pourrez rencontrer. Entrepreneuriat Laval sera là, le programme Sentinelle Nord. Donc vraiment, c'est un moment de réseautage. 11h30 à 13h, ça se passe dans le Desjardins, à l'Espace Jardin. Où est-ce qu'il y a eu? C'est l'Espace Jardin, c'est en face du Café Fouali. Pas très compliqué, juste de l'autre côté. Donc, soyez là. Nous, on l'a partagé aussi sur les réseaux sociaux. Si vous cherchez des informations, mais donc c'est vraiment jeudi de 11h30 à 13h. Sinon, écrivez-nous sur notre page Facebook. Ça nous fera plaisir de vous rediriger pour venir participer à ce midi branché. Et d'ailleurs, il y aura plusieurs des membres de l'exécutif qui seront présents, évidemment, pour vous parler de l'Allier. On sera là, évidemment, avec vous.
Non, c'est un événement très intéressant.
Oui,
moi,
oui.
Je peux souligner quelque chose, en fait.
Oui,
allez
vas-y.
Voir, en fait, les employeurs de la fonction publique québécoise.
Oui.
Parce que je vais parler de mon expérience. Moi, je viens pas d'ici. Je suis étudiante étrangère. Je viens de recevoir ma résidence, etc. Puis, en fait, j'ai trouvé une belle job. Donc, j'ai envoyé mon CV. J'ai tout envoyé. J'ai écrit à la madame qui s'occupe, en fait, de cette offre-là. Puis, elle m'a répondu, m'a dit, ton CV est fort intéressant. Donc, tu as ce qu'on veut, tu maîtrises les logiciels qu'on utilise et tout ça. Mais le problème, j'ai cherché ton nom dans notre base de données nulle part, mais je ne l'ai pas trouvé.
Ouais.
Et elle m'a dit, en fait, il faut passer par un processus de qualification, je ne sais pas, machin et quoi. Puis, je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu de ça.
C'est ça. C'est un grand concours. Puis, en fait, oui. Yasmine, tu arrives dans un moment où, là, il y en a eu d'autres, des concours dernièrement.
C'est ça, mais
ça faisait des années qu'il n'y en avait pas eu, des concours.
Fait que
là, ils commencent à remplir leur banque de candidatures en ce moment. Donc oui, c'est vraiment un moment important pour les rencontrer. Puis c'est un processus qui est complexe. Moi aussi, je l'ai expérimenté un peu dans le passé. Puis c'est un processus qui est complexe. Faut comprendre comment ça fonctionne.
C'est pas
si simple. Donc oui, justement, là, les gens qui seront là sûrement pourront répondre.
C'est la question. Concours, comment on fait, où on trouve les dates des concours, comment on passe les concours. En fait, quel concours, en fait, qui m'intéresse, parce qu'il y en a, en fait, des catégories, des concours.
Oui.
Et comme je te l'avais dit, en fait, j'ai raté le concours de mois de septembre.
Oui, c'est ça, voilà.
Il est ouvert à partir du juin 2018. Et là, il n'y aura pas d'autres concours pour l'instant. Donc, allez voir, allez poser la question. C'est très, très
intéressant. Oui, il y a des infolettres où vous pouvez vous inscrire aussi, tout ça. Allez voir sur le site aussi de la fonction publique, de la fonction publique québécoise. Dernière activité, c'est une activité qui se passe en ligne. Si vous n'êtes pas sur le campus, on le sait, on a beaucoup de nos membres qui ne sont pas sur le campus, mais vous avez ce webinaire où vous pourrez participer. En fait, c'est les clés de l'intégration en emploi au cycle supérieur. C'est le même qu'il y aura en deuxième partie demain matin. Donc, je vous disais, il y a une conférence à 9h, une à 10h. Celle de 10h, va être aussi en ligne. Donc, si ça vous intéresse encore une fois de parler des compétences, ces choses-là, ça se passe sur le web de 11h30 à 12h20. Vous pourrez vous inscrire jusqu'à jeudi. Si vous voulez le suivre en ligne, et on le sait, c'est important pour les étudiants de deuxième, troisième cycle. On le sait que vous êtes parfois fois hors du campus, c'est difficile de venir sur le campus. Soit vous êtes en situation d'études à l'extérieur du pays même, ou en recherche, évidemment, dans des centres de recherche. On va une petite pause musicale, puis par la suite, ben, on continue. On a plein de petits sujets à traiter avec vous pour dans cette émission de Questions de savoir. Dans votre émission Questions de savoir, votre émission des étudiants de deuxième, troisième cycle à l'Université Laval. On vient d'entendre la chanson Lucille qui est dans votre palmarès de Chiz encore cette semaine. On vous parle de plusieurs sujets en vrac. Jérôme, on va commencer avec toi. En fin de semaine, tu t'es rendu à Trois-Rivières.
Exactement.
En compagnie de Guillaume, d'ailleurs, qui est notre vice-président aux affaires externes. Et dis-moi, c'était... Qu'est-ce qui se passait à Trois-Rivières en fin de semaine?
C'était un très bel événement. C'était samedi et c'était organisé par l'AGA UQTR et ça se passait à... L'UQTR.
Oh, surprise!
Logiquement, oui.
Donc, l'AGE-UQTR, qui est l'Association générale des étudiants.
Hein, de, c'est l'université,
de l'Université
du Québec à Trois-Rivières.
Voilà.
Exactement. Bon. Et la majorité des étudiants, des assos étudiantes universitaires de campus étaient là, ainsi que la FEC. Et c'était un événement qui s'appelle le Rassemblement national académique. Et le grand thème de discussion de la journée, c'était l'intégration des étudiants et étudiantes autochtones aux études postsecondaires, donc sur les campus universitaires. Mm-hmm. Et on a commencé ça par question de nous nourrir sur le sujet parce que c'est pas tout le monde qui est informé là-dessus, dont moi-même. Et on a eu une conférence de Mme Léa Lefebvre-Adélie, une doctorante qui étudie le sujet, pour nous montrer quelles sont les limites et les défis qui s'imposent aux étudiants autochtones dans les études post-secondaires. Et après ça, on a jasé avec les autres associations étudiantes ensemble pour voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs, c'est quoi les efforts d'intégration qui étaient appliqués dans les universités. Et ce qu'on a réalisé, que le point en commun majoritaire des universités, c'était que on n'a pas de données vraiment sur l'expérience des étudiants et étudiantes autochtones sur les campus. Donc, on a des chiffres, on sait comment il y en a, on sait comment ils ont le droit, comment d'étudiants ont eu droit à une subvention fédérale, par exemple, mais on ne sait pas est-ce que leur expérience est positive, est-ce qu'elle est négative, est-ce que c'est neutre. On n'a aucune donnée là-dessus, donc c'est déjà un bon constat à avoir. Et ensuite, ben là, il faut se poser des questions sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'intégration de ces étudiants et étudiantes-là. Et ce qu'on a vu aussi, qui était quelque chose de très intéressant, c'est qu'à l'UQAT, l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, c'était qu'il y avait vraiment un gros effort de recrutement et d'accueil pour ces étudiants-là. Ils ont un service Premier Peuple, qui est vraiment un service du bureau, d'un bureau étudiant pour spécialement fait pour ces étudiants-là, en plus des programmes en études autochtones, ainsi que des programmes entièrement dédiés à ces étudiants-là. Donc, ça peut être un bel exemple à essayer de suivre l'Université de l'UQAT. Et c'est ça. Donc, beaucoup d'informations. C'était très intéressant comme rencontre.
Est-ce que, puis justement, ben c'est ça. Est-ce qu'il y avait aussi... est-ce qu'on, parce que là, on a parlé de l'expérience... Tu nous parles un peu de l'expérience qu'ils vivent. On n'a pas beaucoup d'informations. Est-ce que aussi il y a peut-être un conseil de se dire, ben on pourrait essayer d'avoir plus de ces étudiants-là au sein des universités? Ou c'était... pas vraiment le...
Oui, en fait, c'était surtout pas tant nécessairement en accueillir plus, mais voir comment ils sont accueillis. Donc, je vais pas reprendre le slogan de la CAQ. C'est là, ce que...
en avoir moins, mais en prendre soin.
Ça s'en vient vers là, mais
c'est du moins prendre soin ceux qui se viennent d'eux-mêmes.
Exactement, bon. Juste de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment pour ensuite voir si on peut en accueillir plus et si comment ça peut se passer. Parce qu'à l'Université de Laval, on en accueille quand même énormément, plus de 200. Avec les Hurons-Wendat qui sont dans la ville de Québec, en plus de toute l'Est du Québec. Donc, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec ces étudiants-là.
Quelles sont leurs expériences, est-ce que ça se passe bien ou pas.
Exactement.
Des belles pistes d'action, pour que ce soit pour la LIE ou n'importe qui, évidemment, à l'Université Laval. Je vous parle d'un autre enjeu aussi qui a ressorti cette semaine. On vous en avait parlé un peu lors de nos revendications de l'automne. On avait fait une grande liste de revendications cet automne. En marge, en fait, là, des élections, évidemment, provinciales. Et on vous avait parlé, en fait, des pensions alimentaires qui sont présentes, en fait, là, dans le calcul de prestations de l'aide financière aux études. Donc, on avait travaillé, on en avait discuté, évidemment, avec la PETUL, l'Association des parents étudiants de l'Université Laval, de ce sujet-là. C'est eux, évidemment, qui nous avaient soulevé cette problématique-là. Il y a une pétition, en fait, en ce moment, sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, qui qui veut justement que les pensions alimentaires soient considérées, ne soient plus considérées comme des revenus. Oui, dans l'aide financière aux études, mais aussi dans plusieurs prestations diverses du gouvernement. Par exemple, les allocations au logement, l'aide juridique, les prestations d'aide sociale. Donc, parce que je pense qu'aussi ce qui se passe là-dedans, c'est que cet argent-là va pour l'enfant, en fait, au final.
Oui, l'enfant, et finalement, ça, c'est un peu difficile. C'est un peu injuste de compter l'allocation. Donc, je pense que c'est en tout cas quelque chose de norme. Je vous encourage à aller participer à la pétition, oui. Aller signer la pétition, mm-hmm. parce qu'effectivement, on gagnerait à soustraire la pension alimentaire.
C'est l'enfant qui est. Mm-hmm.
Qui est perdant, au final.
C'est une victime.
Oui, au final. Puis on se rappelle qu'en 97, on nous le rappelle là, sur le site de la pétition, que c'est plus imposable, les pensions alimentaires. Ouais. Depuis 97, l'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté le 30 novembre dernier une motion dans ce sens-là. Mmh. Donc, en tout cas, je pense que le momentum est bon. Vous avez jusqu'au 10 mars prochain, donc au 10 mars 2019, pour signer cette pétition. Il y avait déjà ce matin 925 signataires. Donc, allez, on continue de signer. Go. Si vous cherchez le lien, allez sur notre page Facebook. On l'a publié ce matin. Je voulais faire un petit retour sur notre édito de la semaine dernière. En fait, ça a été publié il y a deux semaines, je crois. Pourquoi? Parce que dans les médias, cette semaine, on a eu une espèce d'histoire un peu abracadabrante de Nathalie Lemieux, qui est une... elle est conseillère.
Mairesse suppléante.
Oui, mais là, elle a déjà quitté son...
Ouais, ça n'a pas été long.
Elle a comme été un peu sous les feux de la rampe à cause de son espèce de... Elle a parlé d'islamophobie et tout ça. Mm-hmm. Mais parce qu'elle a été sous les feux de la rampe à cause de ça, les médias s'en sont un peu intéressés. Et dans certains de ses commentaires Facebook, mm-hmm. surtout un en particulier, elle défendait en fait la théorie comme quoi... théorie, je le dis en rien, parce que comme quoi la Terre serait plate. Vous savez, il y a comme un grand courant quand même là,
que
la Terre est plate. Ça serait un complot que la Terre est ronde pour que la NASA soit financée. En tout cas, bon.
On va en parler longtemps.
Donc, c'est ça, de voir ça, qu'une élue, là, une élue qui est au conseil municipal de Gatineau, puisse avoir ces croyances-là, parce que oui, là, c'est des croyances, là, l'allié peut se positionner facilement, comme quoi la Terre est ronde, oui, parce que, bon, évidemment, nous, on croit à la science, évidemment, et ça m'a fait penser, en fait, à notre édito de la semaine, d'il y a deux semaines, mm-hmm. qui est dans votre Impact Campus, dans lequel on se demande la question... Elle est où la place de la recherche dans le débat public? Mm-hmm. Et de plus en plus, on voit des exemples de ce genre-là, que les théories du complot, finalement, sont plus importantes ou sont mises égal à égal mm-hmm. avec les faits scientifiques, finalement.
Absolument. On rapportait même hier, Patrick Lagacé de la presse rapportait hier qu'il y avait une chargée de cours à l'UQTR, le campus de Vaudreuil, qui avait eu des plaintes parce qu'elle propageait à ses étudiants des théories du complot, comme quoi justement la Terre est plate, tout est un complot contrôlé par les élites, et etc., etc. Donc, c'est rendu même dans les universités. Mm-hmm. C'est un cas, oui, c'est juste un cas, mais ça reste tout de même inquiétant de voir des propos anti-scientifiques dans des... dans des institutions scientifiques.
Donc, oui, puis que ça a pris des plaintes des étudiants avant qu'on se rende compte du problème, au final.
Il y a eu deux plaintes contre cette chargée de cours. J'ai dit professeur, mais c'est une chargée de cours. Mm-hmm. Et il y a... l'administration de l'UQTR n'a rien fait encore, donc ils tolèrent, en fait, ce genre de propos.
On espère qu'ils agiront... dans les prochaines minutes,
et là-dessus, Philippe, tu peux me permettre, parce que là, tout ce qui a remis en question ici, c'est la question, comme tu l'as dit au début, de la science dans le débat public.
Oui.
Mm-hmm. C'est ça, parce que effectivement, je pense que c'est une problématique, ça dépend des domaines, là, mais il gagnerait à vulgariser les résultats de la science. Mm-hmm. Okay, nous sommes à la radio, donc il faut permettre au grand public, en fait, justement, lambda, d'avoir accès à ce résultat-là, et c'est comme ça on va pouvoir les éduquer et puis les permettre d'avoir des arguments solides, en fait, extraits de la science.
Oui, puis dans le fond, est-ce que c'est ça qui se passe dans le fond? C'est que la recherche scientifique est tellement occulte dans la tête des gens est tellement pas concrète, en fait, dans la tête des gens, que c'est aussi, ça paraît, en fait, oui. ça a une apparence de, d'être aussi concret que ces théories du complot-là et que ces choses qui ne sont pas appuyées, finalement, sur des faits scientifiques.
C'est ça, c'est ça. Donc, il faut vulgariser, il faut... Ben, c'est ça, parce que, généralement, les résultats scientifiques sont... Il y a le vocabulaire qui va avec, il y a les trucs qui sont... Donc, alors, il faut permettre à tout le monde de comprendre, surtout, parce qu'effectivement, les théories du complot, c'est basé sur souvent des trucs ramassés, ça, là, mais que le citoyen lambda peut-être peut courir croire.
Oui.
Donc, il faut lui montrer qu'il ouais, y a des résultats scientifiques qui sont disponibles et qu'il faut lui expliquer. Il y a le et ça peut se faire via les radios. Nous sommes à la radio aujourd'hui, souvent dans les
dans les médias,
il faut inviter
évidemment.
Également les chercheurs à vulgariser les résultats de leur recherche. C'est comme ça, et ça va, va contribuer à intégrer les résultats scientifiques dans le débat public.
Exact.
De notre côté à l'Allier, en tout cas, on essaie de le faire le plus souvent possible, surtout en plus avec la chaire publique, évidemment. Cogito aussi, on est en train justement de repenser là, le concept de Cogito qui est notre concours de vulgarisation. Donc, restez à l'affût justement, là, on travaille là-dessus tous ensemble. Ben, c'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci, merci à vous d'avoir été là.
Merci, c'était un plaisir.
Puis ben, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ben, pour voir notre édito, je vous invite à aller prendre un Impact Campus dans les bacs, la nouvelle mouture, nouveau magazine, c'est super beau. Sinon, sur notre site web pour toutes les informations sur notre association, donc Allier.ulaval.ca.